Le 28 avril dernier, c'était la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Et j'ai reçu un mail d'une certaine Marie-Pierre Prudhomme qui me dit « Mais on pourrait peut-être parler de ce sujet qui est assez important. » Et je lui ai dit « Bah voilà, même en retard, on en parlera. » Donc, vous avez compris, j'ai à mes côtés Marie-Pierre Prudhomme. Bonjour Marie-Pierre.
Bonjour Nathalie.
Vous allez bien ?
Je vais bien, merci.
Merci de revenir dans nos murs. J'ai l'impression que chaque année, on a notre petit rendez-vous comme
voilà.
Ça. Et donc, vous, Marie-Pierre, vous avez, on peut le dire, un CV à rallonge. Il est assez extraordinaire. Pour ceux et celles qui sont à l'écoute et qui ne vous connaîtraient peut-être pas encore, est-ce que vous pourriez nous résumer les grands moments, les grandes lignes de votre carrière et vos spécialités également ?
Ok. Merci en tout cas pour l'accueil. Et donc, moi, je crois que c'est toujours le moment de parler de la sécurité et de la santé au travail. Et c'est bien qu'il y ait une journée qui mette ça en évidence, mais on va un petit peu développer ça avec pour objectif que ça puisse aider des auditeurs, des auditrices. Donc, moi, je suis coach du travail et je fais des accompagnements, des interventions en entreprise au niveau de la prévention des risques psychosociaux, où nous travaillons sur les relations au travail, sur l'amélioration de ces relations, sur le climat social, mais aussi des interventions au niveau de la prévention du burn-out et de la prévention santé sur le lieu du travail. Donc ça peut être des interventions qui sont généralistes pour attirer l'attention sur ce qu'on peut faire pour protéger, préserver sa santé et sa santé parfois dans des conditions de travail qui ne sont pas toujours faciles. Ça, on va le développer. Donc ça, c'est une de mes casquettes, le coaching du travail et les accompagnements au niveau du bien-être au travail. J'ai également un centre de formation, le centre Formatera, où je forme des futurs professionnels ou des professionnels ou des particuliers. Donc ce sont des formations en hypnose, en coaching et en outils thérapeutiques. Donc j'ai aussi bien des médecins, des infirmières que des chefs d'entreprise qui viennent acquérir des outils de coaching pour l'un et des outils d'intervention en hypnose pour les autres. Et je fais également des accompagnements individuels qui ont trait au bien-être au travail. Quand on est en burn-out, mais que faut-il faire pour se reconstruire? Et ça peut comprendre des orientations, des reconversions professionnelles, mais il n'y a pas besoin d'être en burn-out pour questionner sa reconversion professionnelle. Puis j'ai une autre casquette également, qui est celle de nutrithérapeute, où là je fais des accompagnements ciblés sur le végétarisme, donc des transitions comment devenir végétarien, également des personnes qui ont déjà posé le choix du végétarisme, et je les accompagne pour pouvoir vraiment optimiser leur alimentation et l'équilibrer. Voilà, je crois que je fais le tour de mes casquettes. Et voilà, donc en termes de formation, j'ai un master en sciences du travail, nutrithérapie, mais ça c'est une toute autre formation. J'ai un diplôme en psychotravail également. Voilà, en systémique. La systémique, c'est l'étude des systèmes, ce qui est plus qu'utile quand on veut avoir une réflexion et des interventions prégnantes en entreprise. La base de la systémique, l'essence de la systémique, c'est de considérer toute difficulté rencontrée par l'individu comme étant une manifestation de dysfonctionnement au sein du système. Et donc toute difficulté exprimée par une personne va être entendue comme une expression de la souffrance du système, ce qui permet un petit peu de réduire, diminuer, enlever certaines tendances à la culpabilité et de comprendre ensemble, de responsabiliser plutôt que de culpabiliser. Ouais. Et voilà, ici maintenant, c'est la casquette coach du travail.
Et ma question, la suivante, c'est qu'est-ce qui vous a donné cette impulsion d'aider l'autre ? Parce que c'est quand même, j'imagine, beaucoup d'énergie de votre part. Alors là, je m'adresse aux auditeurs, n'hésitez pas, hypnose-prudhomme en un mot.be, hypnose-prudhomme.be, vous allez voir, il y a énormément de choses qui sont développées, qui sont précisées sur ce site internet. Mais vous, Marie-Pierre, Votre intérêt là-dedans, pourquoi l'être humain ?
Alors, pourquoi l'être humain ? Bonne question. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui est plus important. L'humain, l'humanité. Moi, mes premières réflexions par rapport à l'humain et à l'aide à l'autre, elles sont... Je pense que déjà enfant, c'est quelque chose qui était là en moi avec une idée de vouloir être utile à l'autre. Et puis c'est au cours d'un chemin personnel où j'ai découvert l'hypnose qui a vraiment été une révélation pour moi et qui m'a vraiment permis de continuer à vivre, pour le dire positivement, où j'ai été intriguée par ça et j'ai voulu étudier ça. Et puis j'ai étudié d'autres outils thérapeutiques. J'ai étudié le yoga également, dans une quête de pouvoir amener une réflexion qui soit globale, qui soit vraiment globale. Et plus j'avance dans mes accompagnements, plus je me trouve incomplète et plus je trouve cela très très interpellant. J'ai l'impression que dans la société actuellement, il y a plutôt une quête de solutions uniques et très très rapides. Et voilà, moi je suis davantage dans l'idée de réflexion tout à fait globale. Et d'ouvrir, de s'ouvrir l'esprit par rapport à ça. Il n'y a pas de problème unique. Il y a des manifestations de souffrance et il y a lieu de, d'aborder les choses avec une vision complexe. Non pas compliquée, mais complexe. Mm-hmm. Donc, aider l'autre, c'est quelque chose qui m'a toujours parlé et ça m'anime. Ça m'anime vraiment beaucoup et ça me porte à étudier et apprendre toujours plus. Mmh.
Et c'est vrai que vous parliez de sens tout à l'heure et j'ai l'impression que, bon, on a eu la pandémie, on a eu les inondations, la guerre en Ukraine, on a énormément d'informations par jour qu'on s'ingurgite soi-même, j'ai envie de dire, ou consciemment, inconsciemment. Est-ce que les gens qui viennent vous voir, parce que comme vous l'avez dit, on n'a pas de solution miracle, c'est pas en claquant des doigts qu'on va être mieux, il faut se donner la peine déjà d'en prendre conscience, il y a tout un cheminement, tout un parcours qui peut parfois durer plusieurs années, mais est-ce que les gens qui viennent vous voir sont prêts, quand vous leur parlez, à faire ce cheminement et à s'auto-aider aussi, parce que le travail vient d'abord de soi?
Oui, c'est exact. Le travail vient d'abord de soi. Alors, j'essaye justement d'être la plus explicite possible dans ma communication, que ce soit sur mes sites ou lorsqu'une personne m'appelle pour prendre rendez-vous, pour justement aider à faire prendre conscience de ça, que moi, je vais accompagner pour que la personne mobilise ses propres ressources. Parce que la représentation de l'hypnose peut rester encore actuellement avec une connotation assez magique où la personne s'installe et par magie, un miracle va se produire. Or, ce n'est pas du tout ça. Donc, la première partie d'un accompagnement, il vise justement à aider la personne à prendre conscience et qu'elle se réjouisse du fait que il y a un tas de ressources en elle et qu'elle va pouvoir mobiliser ces ressources. Et ça, c'est vraiment c'est fondamental. Alors, ça peut décourager certains, ce qui est compréhensible, parce que quand on va pas bien du tout, on a à peine la force de demander de l'aide, et c'est déjà très méritant que de demander de l'aide, et on aurait envie que ça bouge tout seul. Et donc, un accompagnement, c'est d'abord pouvoir accueillir la personne dans l'état où elle l'est, et le plus rapidement possible, lui exprimer et l'aider à réaliser que c'est elle qui va trouver, rassembler des forces, des ressources en elle comme elle peut, mais que c'est elle qui va construire son évolution et qui va construire son changement.
Voilà, déjà tout un parcours, hein, quand même pas mal. Et alors là, on est le 15 mai, donc on est dans quelques semaines, on sera au milieu de cette année 2024. Comment, dans votre parcours au quotidien, vous sentez justement ce monde du travail, ces gens qui viennent vous trouver pour aller mieux? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde justement qui viennent en vous disant, moi je ne trouve plus de sens dans mon travail, ou je me sens harcelé, ou vraiment des problématiques de travail?
Ouais, il y a énormément de problématiques du travail. Parmi les thématiques que vous évoquez, malheureusement, les problématiques d'épuisement, de perte de sens, énormément de perte de sens. On retrouve ça beaucoup chez le travailleur social, entre autres, qui initialement est mu vraiment par les meilleures intentions, a envie d'aider l'autre et dans une dynamique d'altruisme, et qui se retrouve très fréquemment dans des structures où ce n'est pas possible d'aboutir des projets, où il y a un manque de moyens, et le travailleur social reste avec ses valeurs, avec son idéologie, et à la base cette impression, je vais travailler dans un endroit où il n'est pas question d'argent, où il n'est pas question de financier, je ne vais rien devoir vendre, et puis au final, il réalise que la structure qui l'emploie fait ce qu'elle peut pour se débrouiller avec des octrois de subsides, et qu'elle fait ce qu'elle peut pour trouver des moyens, et que par exemple pour avoir des subsides, il faut X critères, il faut s'affilier autant de bénéficiaires, il faut autant de stagiaires, il faut que ces stagiaires remplissent certaines conditions. Si je reprends l'exemple, par exemple, dans des centres d'insertion socio-professionnelle, ça, c'est très marqué. Il y a vraiment les stagiaires, okay, ils sont là pour apprendre à se réinsérer socialement, et ça passe par le professionnel. Mais au-delà de ça, ils doivent être productifs. Donc, il y a des objectifs sociaux, ok, mais pour que les objectifs sociaux soient suivis, il y a des conditions vitales économiques. Et ces conditions vitales et économiques, le travailleur social n'est pas nécessairement conscient au début d'une carrière. Et donc, quand il s'investit, se surinvestit, et puis qu'il réalise tout l'enjeu économique et financier qu'il y a derrière, là, il peut vraiment y avoir une perte de sens au travail. Mais on retrouve ça également dans plein d'entreprises privées.
Oui. J'allais vous demander s'il y avait d'autres secteurs qui étaient fort touchés aussi.
Pour moi, tous. Je pense qu'aucun secteur n'est épargné par des difficultés sur le lieu du travail et par des risques psychosociaux. Aucun, parce que ça reste un assemblage de personnes, un regroupement de personnes qui, même si elles verbalisent qu'elles sont heureuses de venir travailler ou qu'elles veulent venir travailler, il y a quand même un aspect de contrainte là derrière. Parce que si du jour au lendemain, une personne décide de ne plus aller travailler, il y a quand même tout un carcan social, légal, économique, qui va freiner cette personne. Si on se disait, tiens, ici en Belgique, petit sondage sur le nombre de personnes qui se sentent en réelle liberté de quitter leur travail, je pense que ce ne serait pas très très élevé. Donc malgré tout, il y a un facteur obligation qui est là. Et dès lors que des personnes sont rassemblées avec obligation d'être et de faire, À tous les coups, c'est susceptible de générer des tensions et des difficultés. Mmh. Donc pour moi, aucun secteur n'est vraiment épargné.
Oui, mais ça veut dire alors que dans cette analyse-là, on est tous obligés de payer des factures, on est tous obligés de vivre en société, si on a une famille, qu'on choisit d'avoir des enfants, on est obligé de les scolariser, de leur acheter des vêtements. Ça veut dire, est-ce qu'il y a vraiment une personne est-ce que vous rencontrez des personnes souvent qui sont épanouies et qui vous disent, moi, oui, mon travail, c'est plus une passion, ou je ne me sens pas dans l'obligation de, parce que c'est un questionnement super profond quand même.
Oui, c'est un questionnement sociétal. Donc moi, en intervention en tant que coach du travail, j'ai peu l'opportunité de rencontrer des personnes qui sont super épanouies à leur travail. Si ce n'est des personnes qui sont dans une démarche de reconversion professionnelle, qui ont fait le tour de leur métier et qui se disent oh, « Tiens, maintenant, ben c'est bon, je vais aller explorer d'autres univers professionnels. » Mais c'est rarement le cas de quitter en étant totalement épanoui. Généralement, il y a quand même un petit laps où la personne ne s'est pas sentie bien et qu'elle a envie d'autre chose. Donc moi, au niveau professionnel, je rencontre pas vraiment beaucoup de personnes qui sont bien dans leur travail et qui, de plus, m'expriment un contexte professionnel. Donc ça, bien sûr, c'est leur vision et leur perception personnelle, mais ça me raconte quand même des contextes professionnels, secteurs très très variés, où on se dit ça peut quand même être pas vraiment confortable d'y fonctionner. C'est mais ça. D'un point de vue personnel ou dans d'autres rencontres thérapeutiques comme en nutri par exemple ou en formation, là je rencontre des personnes qui vivent un épanouissement professionnel. Voilà, ça existe, hein, ça existe vraiment. Mais ce que je veux dire, c'est que en termes de risque, de probabilité d'avoir des inconforts au niveau professionnel, le risque et la probabilité sont relativement élevés, puisqu'on part avec ce principe. Oui. Des personnes sont obligées de travailler ensemble. Elles ne se sont pas choisies non plus.
Mais d'où ma question, alors elle est peut-être mal formulée, c'était est-ce que l'herbe est plus verte ailleurs ? Parce que même une reconversion amène à, soit si on veut se reconvertir en tant qu'indépendant peut-être, mais alors là c'est un autre stress, une autre pression parce qu'on doit tout gérer. Mais est-ce que les personnes qui sont en reconversion après vous disent je me sens quand même vachement mieux, ou il y a d'autres facteurs qui arrivent et finalement ils se disent j'étais peut-être pas aussi mal avant que je le suis maintenant, ou vous voyez un petit peu
Alors c'est pas que l'herbe est plus verte ou moins verte ailleurs, il y a quand même des endroits où les conditions de travail ça questionne. On se dit ça c'est pas possible. Si on regarde même au niveau légal, ils sont pas dans les clous. Par contre, un vrai travail en reconversion professionnelle, ça implique une connaissance ou une reconnaissance ou une découverte ou une redécouverte de soi. Et la personne va comprendre aussi ce qui a été, ce qui n'a pas fonctionné dans son poste précédent. Ce qui fait que parfois, la personne peut venir avec une idée de l'herbe est plus verte ailleurs et je vais changer d'entreprise, je vais même changer de métier. Pardon. Et au final, la personne reste dans son lieu de travail et dans sa fonction, mais on a travaillé au niveau de sa perception d'elle-même et de sa perception de son travail, ce qui fait qu'elle va revaloriser son travail, elle va percevoir autrement ses collègues, elle va rendre du sens à son travail et elle ne ressentira plus le besoin de partir. Parce que vous savez, Nathalie, ce que c'est la pire des reconversions professionnelles, c'est simplement qu'on veut quitter absolument un endroit et que justement on se dit ça va être mieux ailleurs et qu'entre les deux on ne bosse pas sur soi, et bien là on va vraiment droit dans le mur. L'idéal, vraiment l'idéal, si on veut bien se reconvertir professionnellement, si c'est possible, on reste là où on est. Parfois c'est pas possible parce que les conditions, l'environnement est trop délétère et que ça fait trop de dégâts. Mais dans l'idéal, c'est de pouvoir clôturer positivement le travail, le poste où on est. Clôturer positivement, ça veut dire j'arrive à prendre de la distance, j'ai compris ce qui s'est passé. Voilà ce que j'ai à bosser sur moi. Si on ne sort pas avec voilà ce que j'ai à bosser sur moi, c'est vain.
On va reproduire.
Voilà, on va reproduire. Ouais. Donc l'herbe n'est pas nécessairement plus verte ailleurs. Mais si on a bossé sur soi, qu'on s'est mis au clair au niveau de ses valeurs, parce qu'une orientation professionnelle qui tient la route, il y a un gros travail au niveau des valeurs. Qu'est-ce qui est important pour moi ? Si on a travaillé tout ça, la conclusion, ça peut être au final, là où je suis, je me rends compte que j'y suis bien. Et ce n'est pas du dépit, ce n'est pas du tout du dépit. C'est un autre sens et une autre énergie qui est remise dans le travail.
Je vous l'avais dit, hein, vous qui êtes à l'écoute, c'est des plus intéressants cette thématique. Dans quelques instants, on va vous parler de quelques chiffres assez alarmants. Nous sommes toujours sur Equinox FM, vous l'êtes toujours d'ailleurs, 105 FM, DAB+ et streaming, toujours en compagnie de Marie-Pierre Preud'homme qui nous parle aujourd'hui d'une thématique. Bah oui, la journée mondiale donc de la sécurité et de la santé au travail, c'était le 28 avril dernier, mais nous, on ne pouvait pas passer à côté. Et c'est vrai, Marie-Pierre, que les chiffres sont assez alarmants, puisque les enquêtes du BESWIC, alors, je me suis renseignée ce matin, en fait c'est un centre de connaissances belge sur le bien-être au travail, nous dit 33% des travailleurs ressentent souvent et toujours du stress au travail, 9% ont fait l'objet de l'intimidation, de la violence ou du harcèlement moral, 11% de menaces ou violences verbales et 2% d'attention sexuelle non désirée. C'est quand même...
effrayant.
Oui, là il y a le warning qui se met, le rouge qui s'allume, c'est dingue.
Oui, oui, tout à fait. Et ce stress qui est parfois vendu aux travailleurs avec cette notion de stress positif, qui est une très très belle blague évidemment. Hein. Mais le stress, c'est une réaction physiologique quand l'être humain, enfin même l'animal, mais ici on parle de l'être humain, quand l'être humain est mis dans une situation qui n'est pas habituelle et il doit réagir d'une certaine façon. Et donc ça génère une adaptation simultanée, réflexe on va dire, de l'organisme et donc du cerveau pour pouvoir agir en urgence. Mm-hmm. Et donc des petites impulsions qui génèrent du stress, ma foi, nous sommes conçus pour et ça crée pas vraiment de dommages, mais ce qui est problématique, c'est ce qu'on va appeler le stress chronique, donc quand on va mettre des personnes sous tension constante. Alors, si on leur raconte, c'est du stress positif et ça va te motiver, il faut quand même bien réaliser qu'au niveau du cerveau, ce qui se passe, que ce soit un stress qui est là parce qu'on est motivé pour atteindre quelque chose ou un stress qui est généré par quelque chose de connoté négatif, au niveau des dégâts du cerveau et au niveau du dégât du corps, c'est la même chose. Donc du stress reste du stress. Et ce prolongement de stress, cette mise sous tension est très très problématique. Qu'est-ce qui génère du stress dans un monde professionnel ? Eh bien, c'est quand on demande à la personne, on demande aux travailleurs de produire un travail dans des conditions qui ne sont pas réalistes ou quand il n'a pas les moyens pour pouvoir réaliser son travail. Ce sont les causes majeures du stress. Il est dans la capacité de faire ce qu'il a à faire, ce qu'on lui dit de faire. Le stress est très lié au sentiment d'impuissance, en fait.
Oh. Et alors, on pense toujours, 2024, la technologie de pointe, ça nous permet de se libérer du temps, l'informatique aussi. De votre point de vue de professionnel, est-ce que justement toutes ces technologies sont pas un petit peu une couche un peu... on a l'impression que ça peut nous aider, alors que justement, on nous demande un rendement encore plus...
C'est un grand leurre. Ouais. Hein, c'est un grand leurre. Et alors, toute cette course à la digitalisation, à la numérisation, où tout devient automatisé, informatisé, qui enlève complètement l'humain, l'expertise humaine. Mmh. Et là, il y a un revirement de situation où l'outil... l'outil reste un outil, c'est fait pour aider l'humain dans sa vie, dans son travail. Et puis ici, il y a un basculement où l'humain devient esclave de son outil. Mmh. Et là, c'est une grande question sociale de la part laissée à l'outil, la part laissée à l'homme. Et à quel point est-ce qu'il y a ce basculement où l'homme devient esclave de son outil.
C'est ça. Et vous travaillez aussi avec des plus jeunes, des ados, des enfants qui sont peut-être déjà en addiction avec les téléphones, les PC, les tablettes.
Oui, ça peut arriver. Et justement, c'est plus dans le cadre de parents qui s'adressent à moi pour des accompagnements qui peuvent être des accompagnements au niveau scolaire pour se réaccrocher au système scolaire. Il y a énormément d'enseignants qui constatent cette fatigue hein, chez ces enfants ou chez ces ados parce qu'ils jouent toute la nuit ou ils chattent toute la nuit. Donc c'est une addiction comme une autre et qui pose énormément de questions quand on voit tous les dégâts. Je ne parle pas du contenu ici, de ce qui peut être vu sur des écrans, mais simplement de la manipulation, de la fixation des écrans et de tous ces mécanismes, tout ce qui est scroll, où on se rend compte des dégâts que ça fait au niveau cérébral. Ça va tout à fait aux antipodes de ce qui permet de se concentrer. Donc d'une part, ils activent tout ce qu'il faut dans le cerveau, enfin en réalité ils désactivent tout ce qui permet la concentration, donc ils apprennent à se disperser, à être déconcentrés, enfin c'est valable pour les enfants et pour les adultes. Et si de plus ça se fait pendant la nuit, là c'est vraiment casse qu'on triple. Et donc là, grosse interrogation, mais on préfère tout.
Oui.
Voilà, c'est une spéciale là-dessus. Voilà.
C'est vrai que la question était un peu déviée par rapport au monde du travail, mais quoique, parce que c'est vrai qu'on se sent parfois peut-être un peu plus libre de pouvoir parler du télétravail, on va y revenir parce que je pense que c'est un sujet important, mais avec toutes ces technologies finalement, est-ce qu'on n'est pas déshumanisé d'avoir ce téléphone qu'on dit il va nous réveiller le matin avec sa sonnerie et puis au moindre petit clic, au moindre petite notification, on est dessus à n'importe quel moment du jour et de la nuit, que ce soit pour le travail ou pour le personnel. Donc est-ce que le travail n'est pas trop rentré dans la sphère familiale de nos jours?
Oui, les deux s'interpénètrent. On voit toutes les problématiques aussi au niveau des publications privées sur les réseaux sociaux qui retournent dans les entreprises. Ça peut être utilisé pas toujours très gentiment. Donc, il y a vraiment une interpénétration entre le privé et le professionnel. Et cette hyper-accessibilité... Mais d'un point de vue purement légal, le travailleur n'est pas obligé, sauf si c'est stipulé sur son contrat, mais il n'a pas à rester disponible H24. Voilà. Donc là, on parle aussi de pouvoir poser des limites, mais aussi de quête de reconnaissance. La personne qui a cette quête de reconnaissance et qui veut absolument voir qui a essayé de la joindre, qui parle d'elle, comment on a besoin d'elle, etc. Ça, c'est aussi une thématique qui est vraiment importante, toute cette disponibilité et alors ce qui peut être dit au niveau d'un travailleur qui va se plaindre en fait d'être tout le temps sollicité, mais qui en fait ne fait rien pour poser les limites.
Ouais, et ça arrive j'imagine de plus en plus.
Oui.
Dans tous les secteurs.
Oui, oui.
Malheureusement.
Ça, c'est beaucoup plus propre à l'humain. De toute façon, enfin, voilà, c'est propre à l'humain. Ce n'est pas propre à un secteur du travail ni au milieu du travail spécifiquement.
C'est ça. Et puis, vous parliez tout à l'heure donc, d'une chose importante, c'est comment finalement se détacher peut-être un peu plus pas de son implication ni de sa motivation par rapport à son travail, mais par rapport à ce qu'on fait de son travail au jour le jour, comment mettre des barrières pour avoir autant une vie personnelle pleine, riche et bien épanouie, et la même chose au travail. C'est possible de pouvoir scinder vraiment les deux à l'heure actuelle et de se dire, quand je suis au travail, c'est le travail, je fais mon truc, je fais mes 38 heures semaine, je pose des limites à mon équipe, peut-être à ma direction, en voyant comment elle le prend, mais pour un épanouissement et un bonheur personnel aussi, quoi.
Oui, et ici, il y a un élément fondamental qui est, au final, la capacité de concentration. C'est pour ça que je disais, avec les écrans, c'est très problématique, parce que l'utilisation des écrans, telle qu'elle est faite, endommage cette capacité de concentration. Or, pouvoir... gérer son privé et son professionnel, c'est avant tout une capacité de concentration. C'est quand je suis dans ma sphère professionnelle, je suis focus sur ce que je fais. Mmh. Et quand je suis dans ma sphère privée, je suis focus sur ce que je fais et avant tout sur ce que je vis avec mes proches, avec mes amis, mmh. avec ma famille. Et si je ne sais pas me concentrer sur le moment, être vraiment dans le moment, c'est là que ça va vraiment poser problème. Donc cette fameuse concentration, ça, pour moi, elle est hyper, hyper importante. Et travailler au quotidien sur sa concentration, il y a plein de moyens de le faire, mais travailler à sa concentration, c'est une des façons de rester centré sur soi, centré sur ses valeurs, et plutôt que de se dire « je vais mettre des limites », c'est plutôt « je vais me dire oui à moi-même ». L'idée n'est pas d'être égocentré, mais mm-hmm. Je vais dire oui à ma vie, au respect de moi, et par voie de conséquence, eh bien, ça impliquera, par exemple, de poser des limites ou de pouvoir effectuer des demandes claires, que ce soit à des collègues, que ce soit à sa hiérarchie. Donc, je retiendrai deux points. Le fait de pouvoir se concentrer, mm-hmm. Et se concentrer, ça veut dire être au fait, être au courant de ses valeurs. Qu'est-ce qui est important pour moi en termes de valeurs? Et si je le sais et que je me concentre sur mes valeurs, mais mon être, ma façon d'être et ma façon d'agir va être guidée mm-hmm. par mes valeurs. Et puis, bon, ben voilà, on peut toujours se faire accompagner pour valider si les valeurs qui nous animent ont un match par rapport à la société. Parce que des valeurs, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va être positif pour la société. C'est ça. La concentration sur ces valeurs, validation. Comment je me sens par rapport à mes valeurs, quelles valeurs sociales est-ce que mes valeurs ont, comment ça match avec mon environnement de travail. Et quand je suis à la maison, je suis vraiment, je suis, pas je fais, mais je davantage suis. Je suis. Ouais, mmh. Je suis dans mon jardin, je suis avec mon conjoint, avec mes enfants, avec mon chat, avec mes fleurs, je suis mmh. complètement concentrée et centrée là-dessus. Et ça s'apprend, ça s'entretient au quotidien. Et les réseaux sociaux nous éloignent complètement de ça.
Mmh. Oui, ça aussi, hein, un sujet dont on pourrait débattre pendant des heures. Mais ma prochaine question, c'est plus, est-ce que vous avez déjà eu des personnes qui se sont rendues compte, en faisant un travail sur leurs valeurs, qu'elles étaient mais totalement à côté de ce qu'elles vivaient au jour le jour dans leur travail et qui se sont dit, bon voilà, j'ai compris en quoi ça ne matchait pas avec mon travail et je vais m'en aller, mais bien sereinement, parce que j'ai compris pourquoi.
Alors, des personnes qui sont en décalage entre leurs valeurs et ce qu'elles font dans leur travail, ça, bien sûr, oui, j'en rencontre. Malheureusement, c'est moi en tout cas, c'est plutôt rare que je les rencontre en étant sereine. Ce sont plutôt des cas de figure où les personnes ont débuté dans un lieu de travail où il y avait justement des valeurs qui étaient mises en avant, par mmh. exemple des valeurs sociales, je ne vais pas donner de nom à l'antenne, où il y a des valeurs sociales qui sont mises en évidence et les personnes signent et reconnaissent, voire prêtent serment pour ces valeurs sociales. Et puis, l'entreprise, on va nommer ça l'entreprise, change complètement au niveau de direction, au niveau de mission. Mmh. Et là, on n'est plus du tout dans du social, mais on est complètement dans du financier. Et le travailleur qui vit la transition entre les deux a énormément de difficultés, puisqu'il a investi toute sa vie professionnelle pour du social. Ouais. Et ça peut être 15 ans, 20 ans, 30 ans. Et puis d'un coup, on lui demande de changer complètement. On lui demande d'être orienté financier. Et ça peut être vraiment vécu complètement insupportable par la personne. Et quand moi je rencontre la personne, c'est pas qu'elle est sereine, c'est qu'elle est très mal, qu'elle ait subi, elle s'est endommagée, elle s'est vraiment oui. fortement endommagée. Et là, il y a toute une reconstruction qui est à faire.
Mmh. Et ça, alors, d'un point de vue vraiment concret par rapport au coaching, comment se passe une séance de coaching?
Alors, elle est avant tout personnalisée. C'est très spécifique, une séance de coaching. Alors ici, je vais décrire au niveau coaching du travail. Mm-hmm. D'abord, c'est un état des lieux. Je vais inviter la personne à exprimer comment elle se sent, vraiment où elle en est. Et là, nous allons visiter tous les aspects, aussi bien au niveau physique, parce qu'on peut ressortir et être très, très endommagé physiquement, avec des états d'épuisement, des carences, des troubles du sommeil. Donc, on fait d'abord le point sur l'état au niveau physique, au niveau émotionnel. Parfois, il y a de la dépression, enfin, en tout cas, des signes d'état qui sont proches de ou dans le registre de la dépression. Donc, il peut y avoir des collaborations avec le médecin traitant. Moi, je collabore volontiers avec les médecins traitants, non pas pour informer du contenu de la séance, ça reste vraiment confidentiel, mais pour que le médecin sache où en est la personne, mm-hmm. Parce qu'il y a quand même cette question d'incapacité de travail. Il faut voir quand même ce qu'il y a derrière. Donc, dans une séance coaching de travail, ici, je fais un exemple, par exemple, plus au niveau burn-out, épuisement professionnel, on va faire vraiment le point sur la situation et dégager ensemble un premier objectif qui va avoir pour but d'aider la personne à reprendre sa vie en main sur d'autres plans que le plan professionnel. Mm-hmm. Parce qu'on voit souvent, en cas de burn-out, qu'il y a un désinvestissement total des autres sphères de la vie d'une personne. Par contre, en orientation reconversion professionnelle, on va explorer le vécu professionnel de la personne. On va s'intéresser à ses valeurs, questionner ses valeurs, travailler dessus et voir quels métiers correspondent à ses valeurs. On commence vraiment très vaste et on s'autorise le rêve. Et puis après, on va rentrer dans des critères qui sont plus concrets. Mais on commence par du rêve. C'est essentiel d'oser s'ouvrir et d'oser rêver quand on envisage une réorientation professionnelle.
Marie-Pierre Prudhomme est toujours notre invitée de la semaine, en espérant que vous prenez plaisir à écouter toutes ces informations, même si elles sont basées sur des points de vue, enfin des études très très peu reluisantes, on va dire ça comme ça. Mais c'est bien de pouvoir en parler, de pouvoir en discuter. Et j'espère qu'à la maison vous profitez agréablement de ce moment. La sécurité et la santé au travail, c'est la thématique qui nous occupe encore pendant 10 minutes, toujours en compagnie de Marie-Pierre Prudhomme. N'oubliez pas un site internet à aller voir, curieux et curieuse que vous êtes, ça je le sais, hypnose-prudhomme.be, www.hypnose-prudhomme.be. Marie-Pierre, peut-être justement pour... parce que parfois, on est tellement dans la tourmente, j'ai l'impression, de sa vie, dans ses automatismes, qu'on ne réfléchit plus vraiment à sa situation. Quelles questions pourrait-on se poser pour voir si on est toujours en phase avec ce qu'on vit au travail?
Alors, la première question serait de se demander, tiens, le matin, lorsque je me réveille, est-ce que je me réjouis d'aller à mon travail et est-ce que je me réjouis de faire telle ou telle chose? Voilà. Il faut donc vraiment un intérêt, une motivation à ne pas confondre avec un état d'agitation. Hein, ça, c'est très, très différent. Là, ce n'est pas bon signe. Hein, donc, plutôt intérêt, motivation. Où vous situez-vous par rapport à ça? Également de se demander, tiens, le travail que j'effectue au quotidien, est-ce qu'il est en phase avec mes valeurs? En phase, c'est une chose, mais le plus, c'est est-ce que ce travail nourrit mes valeurs? Si mes valeurs, si dedans il y a l'humanité, eh bien, est-ce que je contribue à nourrir cette valeur humanité quand je travaille? Et puis aussi peut-être de se demander, tiens, est-ce que j'apprends encore à mon travail et est-ce que j'ai envie encore d'apprendre? Voilà, ça ce sont des questions qui sont intéressantes à se poser. On retrouve d'autres points aussi sur mon site orientationprofessionnelle.be, orientation-professionnelle.be, où là il y a une description d'une belle journée de travail. une belle journée de travail, où là il y a des critères qui sont qui figurent pour identifier et faire un petit check. Tiens, est-ce que je vis des belles journées de travail? Si la réponse est non, ben il faut se faire aider, parce que c'est le nombre d'heures que nous passons sur le lieu de travail pour nous y rendre, et puis ce qu'on ramène chez soi, c'est gigantesque. Voilà, si vous faites ce check et que vous vous rendez compte que vous n'y êtes pas, ben je vous souhaite d'avoir le courage et l'énergie de bouger, de se faire aider pour mieux comprendre et améliorer son confort au travail.
C'est ça. Et puis un numéro de téléphone que vous retrouverez également sur le site internet de Marie-Pierre Prodhomme. Donc n'hésitez pas, vous voyez énormément d'outils pour vous outiller à poursuivre une vie peut-être plus équilibrée pour vous, plus en phase avec vos valeurs. Et puis j'aurais envie de terminer, Marie-Pierre, par votre actualité, puisque vous êtes également formatrice, donc pas mal de formations à venir. La prochaine, ce sera en août, et ce sera la base de l'hypnose. À qui est-elle destinée, cette formation ?
Alors, dans cette formation, on apprend le langage hypnotique, c'est-à-dire comment s'adresser à l'inconscient. Donc, c'est de l'hypnose dite ericksonienne. C'est une formation qui s'adresse tant à des professionnels de la santé, actuels ou en devenir, qui veulent ajouter un outil, comme des kinés, des infirmières, des médecins, mais aussi des personnes dans l'enseignement. Tout ça, le langage hypnotique, c'est étonnant, mais il peut être utilisé autrement que dans une séance d'hypnose. Et ça s'adresse également à des particuliers, à des privés qui ont envie de créer leur propre séance d'hypnose et qui ont envie d'utiliser cet outil merveilleux que nous avons en nous, qui est gigantesque, qui est l'inconscient. Si on ne l'utilise pas, il peut nous jouer bien des tours. Et si on apprend à l'utiliser, c'est une richesse et un potentiel considérable et vraiment très très appréciable. Donc voilà, c'est ouvert particulier et professionnel.
En octobre prochain, ce sera du coaching. Donc là, ça va être vraiment ce que vous proposez en tant que professionnel. Donner les outils aux gens pour qu'ils deviennent eux-mêmes coach, alors.
Pour qu'ils deviennent coach ou leur propre coach, ou qu'ils introduisent à leur profession. Donc on voit un outil qui est le POSA. C'est le travail sur la posture, c'est-à-dire comment je me posture par rapport à l'autre, par rapport à des difficultés de vie, sachant que la posture qu'on adopte va influencer toute la vision qu'on a d'une situation, qu'on a de l'autre. Donc, avec cet outil POSA, travaille sur les postures où on va comprendre les interactions dans nos relations et à quel point on co-crée des relations. Donc, ça permet de reprendre la main dans les relations. Le O, c'est le O de travailler sur les objectifs. Comment poser les bons objectifs en lien avec nos valeurs et la personne que nous sommes vraiment. Travaille sur les systèmes, comprendre toutes les interactions au sein de systèmes et comprendre ce qui régit les systèmes. Si on comprend comment on régit les systèmes, on va pouvoir amorcer des changements et parler d'objectifs de façon réaliste. Si on travaille juste avec l'individu, ce n'est absolument pas réaliste et les changements ne sont ni écologiques, ni durables, ni bénéfiques. Et le troisième point, c'est le point attitude. Et dans ce point attitude, il y a un des aspects qui est la capacité à pouvoir transformer toute expérience en apprentissage. Et si je transforme toutes mes expériences en apprentissage, eh bien, j'avance dans la vie de façon réaliste et positive. Je me trébuche, mais j'ai appris qu'il y avait un trottoir et la prochaine fois, je regarderai où je mets les pieds. Et je vais utiliser ça. Voilà, c'est ça que nous mobilisons dans les formations Formatera. C'est très axé sur la pratique, 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 pratique. On apprend un concept et on l'expérimente, on le vit dans les tripes. C'est absolument indispensable.
Waouh ! Ah, des plus intéressants encore une fois. Et puis le dernier, ce sera le 9 novembre, ce sera l'EFT. C'est les
tapotements, Emotional Freedom Technique. Okay. C'est une technique de psycho-énergétique qui repose sur les mêmes principes que l'acupuncture. Ouais. Donc les méridiens. Donc les méridiens sont des circuits énergétiques dans notre corps et on sait à présent mesurer en fait ces énergies. Il y a maintenant des outils, donc on peut sortir, comprendre concrètement ce qui se passe avec ces utilisations d'outils énergétiques. C'est un outil de self-coaching, vraiment pour se gérer soi, mais on peut aussi devenir thérapeute en EFT.
Eh ben voilà, vous avez entendu, vous êtes plutôt curieux et curieuse d'en savoir plus et de vous inscrire et de vivre. Voilà,
formatera.be.
Voilà. Un grand merci à vous Marie-Pierre, merci pour toutes ces informations. J'espère qu'elles seront utiles et elles le seront certainement à plus d'une personne et bonne continuation.
Merci beaucoup.